Avant de pouvoir, Seigneur, te tendre une oreille attentive et recevoir de toi tout ce que tu as prévu pour chacun de nous, nous voulons te dire merci pour ce temps de louange et d'adoration, et pour ces moments qui nous ont permis, ô Dieu, de nous approcher avec assurance et en toute liberté, Seigneur, nous approcher de toi pour t'encenser, ô Seigneur, avec notre louange, avec notre adoration. Seigneur, merci d'avoir eu une oreille attentive aux différentes prières qui sont montées vers toi. Oui, tout cela, Seigneur, est monté vers toi comme un parfum de bonne odeur, un parfum que tu agrées. Merci pour tout. Quelle joie, quel bonheur, quelle grâce de savoir qu'à chaque fois que nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec une foi ferme, avec une conviction profonde dans ta personne et dans l'œuvre accomplie à la croix, à chaque fois, tu nous accueilles à bras ouverts. Seigneur, et tu nous donnes le temps de nous exprimer devant toi, ô Dieu, de te présenter nos doléances, nos besoins, nos requêtes et tout ce qui nous préoccupe. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, ô Dieu, te demander de nous parler, de nous faire du bien, de déposer dans nos cœurs ta pensée, la seule qui est capable de nous transformer en ton image. Seigneur, de nous faire ressembler à toi et à toi seul. Parle-nous, ô Dieu, que toute notre attention soit tournée vers toi. Seigneur, que nos cœurs restent ouverts à toi et à ta parole. Que tu donnes, Seigneur, à nos cœurs cette capacité d'accueillir, de recevoir ta parole. Et puis ensuite de voir cette parole, Seigneur, se cristalliser en nous et prendre corps dans tout notre être et nous faire ressembler à toi et à toi seul. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur. Et assistez-le, Seigneur, dans cette tâche ô combien difficile de pouvoir parler de ta part, de pouvoir, Seigneur, s'adresser, ô Dieu, à tes brebis, à ces âmes pour lesquelles tu es mort à la croix. Seigneur, merci. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est bon. Il y a un temps pour tout, nous l'avons loué, nous l'avons adoré, nous lui avons exprimé nos sentiments. Le moment arrive où nous devons lui tendre une oreille attentive. Nous allons revenir à notre thème de la fois dernière, à savoir Jésus, Jésus-Christ comme étant le vrai cèpe et dont nous sommes les sarments. Gloire à Dieu. Le cèpe, la plante de la vigne, et nous les rameaux, les branches de la vigne. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Jean 15, les 10 premiers versets. Jean 15, à partir du verset 1er. Moi, dit le Seigneur, je suis le vrai cèpe, ou la vraie vigne. En grec, c'est la même chose. En pélos, ça peut être vigne ou le cèpe. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés ou purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cèpe, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez et où vous serez mes disciples, c'est la même chose. Et gloire à Dieu, alléluia. Jésus, le vrai cèpe, dont nous sommes les sarments. Et la première vocation du sarment, sa priorité, quelle qu'elle soit, est de rester attaché au cep, de rester attaché au pied de la vigne, car c'est seulement à ce prix-là que le sarment pourra porter du fruit, encore du fruit et beaucoup de fruits. Et gloire au Seigneur. Depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans la vigne du Seigneur, où nous y sommes, après avoir fait un séjour de nombreuses semaines dans la maison du potier, après s'être séjourné pendant de nombreux dimanches, pendant de nombreux jours dans la maison du potier, nous voici enfin dans la vigne du Seigneur, comme je l'ai souligné la fois dernière, non pas pour nous saouler, mais plutôt pour être ivres du Saint-Esprit. Alléluia. La maison du potier, la vigne du Seigneur. Voilà donc, mes amis, deux images, voilà deux métaphores qui reposent toutes sur cette vérité importante, ou sur cette importantissime vérité. Voilà donc comment deux images qui reposent sur cette vérité, vérité qui devrait monopoliser toute notre attention tant que nous sommes ici-bas, vérité qui devrait, mes amis, faire l'objet de toutes sortes d'attentions de notre part, vérité qui devrait monopoliser toutes nos pensées, car il y va de la vie de chacun de nous, il y va, mes amis, de l'attente que le Seigneur a envers chacun de nous. Gloire au Seigneur. Cette vérité importante, cette vérité fondamentale et vitale sur laquelle repose les deux images, eh bien, c'est la relation singulière, la relation réciproque qui unit d'un côté le potier à l'argile et de l'autre le cep au sarment et vice-versa. Alléluia. C'est donc cette vérité qui sous-tend ces deux images. Et tout l'enseignement du Seigneur, que ce soit dans la maison du potier, que ce soit dans la vigne du Seigneur, tout l'enseignement repose là-dessus. Tout s'articule autour et alentour de cette vérité. En effet, il y a une relation entre le cep que le Seigneur, le vrai cep. S'il est le vrai cep, c'est qu'il y a hélas de faux ceps auxquels les gens s'attachent de plus en plus. Il est donc important dans ces temps de la fin, où la séduction bat son plein, où toutes sortes d'enseignements sont dispensés, où toutes sortes de doctrines sont véhiculées, il est plus que temps que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul cep, c'est le vrai cep. Et le vrai cep n'est pas une religion, n'est pas une idéologie, n'est pas une simple croyance théologique, mais plutôt une personne, à savoir Jésus de Nazareth. Et gloire au Seigneur, alléluia. Donc cette relation, comme nous l'avons vu pendant plusieurs dimanches, et je me permets d'y revenir là-dessus parce que nous allons demeurer dans ce registre relationnel pendant encore plusieurs dimanches, eh bien cette relation singulière qu'il y a entre le potier et l'argile, qu'il y a entre le cep et les sarments, elle est vitale. Oh, alléluia. Elle est vitale. Pour le sarment. Oui, pour le sarment. Le sarment doit rester attaché au cep. Le sarment doit tout faire pour recevoir du cep, mes amis, la sève nourricière, la vie dont il a besoin pour pouvoir porter des grappes de raisins. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette miracle, pas du tout. Il y a plutôt cette relation dynamique, cette relation vitale qu'il faut absolument entretenir. Et gloire à Dieu. Et donc, cet enseignement est repris une fois de plus par le Seigneur dans cette image du cep et des sarments, où il se présente à ses disciples comme étant le vrai cep, auquel tout sarment devrait et doit être attaché. Car il n'y a pas d'alternative dans ce domaine-là. Voilà pourquoi le dimanche dernier, j'ai dit qu'il était de la plus haute importance pour chacun de nous, nous les chrétiens, nous les disciples du Christ, de savoir que nous sommes appelés à rester attachés au cep, c'est-à-dire au Seigneur. Nous sommes appelés à demeurer en Christ afin de porter du fruit, encore plus de fruit, et beaucoup de fruits. Il est impossible d'être en Christ et de mener une vie stérile, une vie infructueuse, une vie improductive. Ce n'est pas possible. Si notre vie ne porte pas du fruit, c'est que quelque part, notre relation n'est pas au beau fixe. C'est donc la relation qui est déterminante. C'est donc la relation qui nous unit à Christ qui est plus qu'importante. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur notre relation plus que sur toute autre chose. Que nous entretenions avec lui une relation de grande proximité, une relation de plus en plus étroite, une relation intime. Gloire au Seigneur. Nous trouvons à travers la parole de Dieu des déclarations qui nous montrent que Dieu met à notre disposition, Dieu a en réserve pour nous des grâces merveilleuses et des bénédictions extraordinaires pour nous, ses enfants, pour nous qui l'avons rencontré à travers le Christ, pour nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Eh bien, Dieu a des grâces, Dieu a des bénédictions qu'il a en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Mais ces grâces merveilleuses, ces bénédictions extraordinaires ne peuvent être expérimentées par chacun de nous que dans la mesure où nous restons attachés à Christ. Toutes les grâces de Dieu, toutes les grandes victoires, quel que soit le combat, se remportent en Christ et par Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. Mes amis, toute notre attention, tout au long de notre pèlerinage ici-bas, doit être attirée sur l'importance, sur la nécessité d'avoir une relation qui s'approfondit jour après jour, d'avoir une relation de plus en plus étroite avec le Seigneur. En d'autres mots, une relation intime en amont entraîne de manière inéluctable de bénédictions merveilleuses en aval. Mais ce qui arrive trop souvent, nous voulons récolter en aval, nous voulons recevoir toutes sortes de grâces de la part du Seigneur, alors que notre relation n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Nous sommes attachés au Seigneur par un petit fil de rien du tout. Voyez-vous? Par un petit fil. Or, le Seigneur voudrait que nous ayons une relation profonde, une relation grande, qui grandit, qui croît chaque jour qui passe. L'apôtre Jacques déclare dans son épître, au chapitre 1er, versets 16 à 17, écoutez ce qu'il nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout don excellent, toute bénédiction excellente, tout ce dont nous avons besoin, mes amis, pour une vie digne, une vie de plénitude, une vie de béatitude, une vie de victoire, tout ce dont nous avons besoin pour une vie qui expérimente au quotidien l'exaucement de la prière, eh bien, tout cela ne peut nous venir que Dieu lui-même, de Dieu lui-même. Alléluia. Nous ne pouvons pas trouver ça au pied d'un prophète. Nous ne pouvons pas trouver ça sur la tête d'un apôtre. Toutes les bénédictions sont en Christ et en Christ seul. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare qu'en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Alors arrêtez de courir après un homme, quelle que soit la grandeur de son ministère. Arrêtez de courir après un homme, quelle que soit sa spiritualité. Ce dont vous avez besoin, ce dont nous avons besoin, ce dont chaque chrétien a besoin, c'est de Jésus et de Jésus seul. Faites très attention, car ce qui ne vous unit pas à Christ, ce qui ne vous relie pas à Christ, vous en détache. Quand bien même cela aurait toute l'apparence de la vérité, quand bien même cela viendrait de la bouche je ne sais de qui, même d'un ange, Paul dit, quand bien même un ange prêcherait un autre évangile que celui que je vous prêche, eh bien que cet ange soit maudit, que l'anathème tombe sur lui. Ne jouez pas une fois de plus avec votre âme. S'il vous plaît, prenez au sérieux votre relation avec Dieu, car il y va de tout. Dieu a promis, en effet, de bénir ses enfants de toutes sortes de bénédictions. De bénédictions à la fois temporelles, c'est-à-dire en rapport avec nos besoins, avec nos aspirations, mais aussi de bénédictions spirituelles. Il nous a fait tant de promesses, et la Bible est remplie de mille et une promesses que le Seigneur fait à ses enfants. Et gloire à Dieu. Des promesses qu'il aimerait accomplir, mais il y a des conditions. Mais il y a des prérequis, oh alléluia. Et souvent, et nous allons le voir, le problème se situe à ce niveau-là. Où en sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Oui, Dieu a promis de bénir ses enfants. Oui, le Seigneur a mis à notre disposition toutes sortes toutes sortes de bénédictions. Dans Jérémie 29, verset 11, écoutez ce que le Seigneur dit. Je connais, moi, les desseins, les plans, les projets que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins, plans, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alléluia. Promesse merveilleuse. Il y a une version qui dit ceci, « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Nous cherchons tous, nous languissons tous, mes amis, après un avenir radieux, après un avenir glorieux, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, oui, j'ai formé des projets pour que vous puissiez connaître un tel avenir. J'ai formé des plans, j'ai formé des dessins pour vous à votre sujet, afin de vous donner un bel avenir, un avenir fait d'espérance, un avenir rempli de victoire. Voyez-vous, cependant, tout ceci ne peut devenir une réalité vivante pour nous que si, et seulement si, nous demeurons en Jésus-Christ et restons attachés à lui. Voilà. Si nous devons jeûner, faisons-le pour que notre relation avec le Seigneur, eh bien, croisse. Alléluia. Si nous voulons faire ceci ou cela, posons-nous la question. Est-ce que ce que je vais faire, la décision que je vais prendre, va-t-elle m'aider à grandir en Christ? Ou alors c'est simplement des décisions ou des choix pour satisfaire le moi, pour satisfaire les caprices du moi. Que ferait Jésus? Ça, c'est une question, nous en reparlerons dans les semaines à venir. Question que chacun de nous devrait se poser avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit. Que ferait Jésus à ma place? Au moment où je dois prendre ces décisions, au moment où je dois faire ce choix, qu'est-ce que lui ferait s'il était à ma place? Oui, tout ceci, l'accomplissement des promesses qu'il nous a faites, tout ceci, c'est-à-dire l'expérimentation des projets, de tout ce qu'il a préparé pour nous, tout ceci ne peut être vécu, ne peut devenir une réalité dans chacune de nos vies, que si et seulement si, comme je viens de le dire, nous demeurons en Christ et restons attachés à lui et à lui seul. J'insiste là-dessus parce qu'on peut s'attacher à une église plus qu'à Jésus-Christ. On peut s'attacher à un mouvement plus qu'à Jésus. On ne cherche que ce qu'on peut faire pour le mouvement. On ne cherche qu'à avoir des responsabilités au sein du mouvement et on délaisse la chose la plus importante. On délaisse ce qu'il y a de plus vital, à savoir notre relation avec Christ. Combien de gens aujourd'hui se trouvent loin du Seigneur? Combien ont hypothéqué leur éternité? Tout simplement parce que ils ont privilégié autre chose que leur relation avec le Seigneur. Demeurer en Christ et rester attaché à lui au travers d'une relation profonde et intime, mes amis, est la condition sine qua non pour jouir de toutes les grâces merveilleuses, pour expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, bref, rester attaché à Christ, demeurer en lui revient à expérimenter Dieu lui-même. Et quand tu expérimentes Dieu, rien ne peut te résister. Avec Dieu, eh bien, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'avancer. S'il y a une montagne et que Dieu est avec nous, eh bien, il suffira simplement que nous proclamions, nous prononcions une parole de foi pour que la montagne se déplace. Non pas qu'à cet instant nous serions devenus de petits dieux. Non, puisque étant dans la volonté de Dieu, puisque le Seigneur nous conduisant, eh bien, nous ne ferions que proclamer sa parole à lui. Et quand nous proclamons sa parole dans la puissance du Saint-Esprit, quand nous proclamons sa parole alors que nous sommes dans sa volonté, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de l'accomplir. Gloire à Dieu. Oui, la relation avec le Seigneur, le vrai simple, doit être considérée par chacun de nous comme une priorité absolue, priorité de laquelle dépendent, mes amis, dépend tout notre bien-être, aussi bien temporel qu'éternel. Ne pourrons partager l'éternité avec le Seigneur, ne pourrons expérimenter la félicité dans la gloire du Seigneur que ceux qui seront demeurés attachés à lui, que ceux qui auront avancé en étant mus par lui, ceux-là, le jour où ils ferment les yeux sur le temps et l'espace, eh bien, ils se retrouvent de l'autre côté dans son ciel de gloire. La relation, voilà la chose qui devrait nous préoccuper. Mais malheureusement, l'ennemi, connaissant cette vérité, va tout faire pour nous distraire. Il va essayer de nous amener à considérer toutes sortes de choses comme étant prioritaires. Nous amener, nous occuper davantage au point d'oublier ce qui est vital. Dans le texte que nous avons lu, nous pouvons trouver plusieurs raisons pour lesquels vous et moi, nous sommes appelés en tant que sarments à demeurer en Christ le vrai simple et à rester attachés à lui, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Quelles sont les raisons? Première raison, eh bien, nous sommes appelés à demeurer en lui pour porter du fruit. Oh, alléluia! Pour porter du fruit. La vie que nous avons reçue de la part du Seigneur est une vie fructueuse, est une vie efficace, est une vie fertile, qui est appelée donc à produire du fruit en nous. Cependant, il y a une condition. Il faut que nous demeurions en Christ et que nous restions attachés à lui. Alors nous porterons du fruit. Car, ajoute-t-il, sans moi, vous ne pouvez... Ça c'est une... Écrivez ce verset en grand, placardez-le sur le mur de votre chambre, afin qu'à chaque fois que vous vous réveillez, avant de quitter votre lit, eh bien, ce verset vous interpelle. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas réussir une journée. Sans lui, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans lui, nous ne pouvons pas faire face aux différentes tempêtes de la vie. Sans lui, nous ne pouvons pas porter du fruit pour sa gloire. Sans lui, mes amis, c'est l'échec absolu. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui. Donc, ne cherchons pas à l'aider. Ne cherchons pas à se dire, bon, je vais compter sur mon expérience, je vais m'appuyer sur ma sagesse, sur l'expérience accumulée pour pouvoir faire quelque chose. Dans ce domaine-là, nous avons besoin du Seigneur en tout et pour tout. Quelles que soient les expériences que nous avons déjà eues avec lui. Quelles que soient, mes amis, les choses que nous avons vécues avec lui, nous aurons toujours besoin de lui à chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi ne dormons pas sur nos lauriers en disant oui, quand cela était arrivé, voilà ce que j'avais fait, j'avais gagné, j'avais remporté la victoire. Quand cela était arrivé, ben j'avais fait ceci et puis j'ai eu du succès. Non, quand tout, pour chaque chose, que nous reconnaissions notre incapacité, voyez-vous, et notre besoin de dépendre totalement, entièrement de lui. Oh, alléluia. porter du fruit. Voilà la première raison pour laquelle nous devons rester attachés au Christ. Nous parlerons, il est question du fruit de l'Esprit qui se manifeste par l'amour. N'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit par l'amour. Qui n'a pas besoin d'amour? Le monde est malade à cause du manque d'amour. Nos sociétés sont de plus en plus impersonnelles. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'amour, le vrai amour, comme nous le verrons, mes amis, est de plus en plus rare. C'est devenu une denrée rare. Et nous allons voir que l'amour, c'est vraiment ce dont l'homme a besoin. Un chansonnier célèbre a dit, on ne peut pas vivre sans amour, n'est-ce pas? Eh oui, on a besoin d'aimer, mais aussi de se sentir aimé. Et l'amour, comme la parole de Dieu nous le dit, est un aspect du fruit de l'Esprit. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit produise ce fruit en vous? Ce fruit qui se manifeste par l'amour. L'amour envers Dieu. L'amour envers le prochain. Comment voulez-vous porter du fruit qui se manifeste, par exemple, par la paix? Être en paix avec soi-même. Car, lorsque la Bible parle de la paix, c'est d'abord la paix en nous. Le plus grand combat que nous avons, c'est en nous, mes amis. Certes, il y a des démons qui peuvent venir, il y a les hommes qui peuvent chercher à nous attaquer, mais le premier combat, c'est en nous. Il y a souvent en nous des tempêtes qui soufflent, nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont agités, et nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sérénité. Alléluia! Mais cette paix-là, nous ne pouvons pas nous la fabriquer. Les religions orientalistes préconisent toutes sortes de méditations, de relaxation mentale. Pendant un temps, la personne qui se livre à ce genre d'exercice peut éprouver un certain sentiment de paix. Et puis après, ça passe. Les problèmes reviennent. Je vous donne ma paix. Alléluia. Littéralement, je reviendrai, je crois, là-dessus. Il dit, je vous donne la paix, la mienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres paix que les gens peuvent expérimenter, mais qui ne viennent pas de lui. Je vous donne la joie, la mienne. C'est-à-dire, il y a d'autres formes de joie que les gens peuvent éprouver, mais qui n'ont rien à voir avec la joie que nous avons en Christ, la joie que le Seigneur nous donne. Cette joie et cette paix qui ne dépendent pas, mes amis, des circonstances qui nous environnent. Tout cela, eh bien, fait partie du fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, qui n'a pas besoin de ça? Eh bien, la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter cela. Vous ne pouvez pas vivre, expérimenter le fruit dans sa plénitude. Nous reviendrons à tout ça. Il faut savoir que la vigne est une plante très productive. Un seul cep porte de nombreuses grappes de raisins. Vous avez déjà vu ça, non? Voilà, une seule branche, un seul rameau porte plusieurs grappes. Et à chaque grappe, il n'y a pas un raisin, hein? Il y en a plusieurs. Et c'est ce que le Seigneur promet à quiconque demeure en lui et reste attaché à lui. Premièrement, pour porter du fruit. Et ce fruit-là, nous en avons besoin. Mais aussi les gens avec qui nous vivons en ont besoin. Voyez-vous? Eh oui. Nous serons le premier à manger, à bénéficier du fruit de l'Esprit. La paix en nous. Voyez-vous? Il est tout à fait démontré que beaucoup de maladies sont d'origine psychosomatique. Voyez-vous? C'est-à-dire l'agitation intérieure. Le manque de paix, on est secoué, on est stressé, on est constamment sous tension. Combien de gens ont fait des crises et sont morts parce que ils sont passés par des moments de stress intense, parce que ils ont connu la dépression, etc. Et puis à un moment, le cœur a lâché. Et oui, sans Jésus, nous ne pouvons... N'essaye pas de porter tout ce problème seul, mon frère, ma sœur. Tu ne dors pas, tu fais des insomnies parce que tu essayes de porter tout ça sur toi. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez, mes amis, nous avons besoin de Jésus pour tout porter du fruit. Du fruit que nous allons d'abord nous-mêmes manger, en jouir pleinement, mais aussi du fruit que ceux qui vivent avec nous mangeront. Oh, alléluia. Il y a des conflits, que ce soit dans le couple, dans la famille, que ce soit au boulot et tout ça, et je peux vous assurer que les conflits génèrent beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Il y a des gens qui vieillissent trop vite parce qu'ils sont dépassés par les événements. Vous savez ça? Oui? Vous croisez quelqu'un 5 ans plus tard, vous le recroisez, ben il a vieilli de 20 ans. Quand vous essayez de parler avec lui, oh mon frère, si vous pouvez savoir par où je suis passé, des moments de désert, on essaye de prendre tout ça seul, eh bien, le résultat, c'est que les problèmes nous font vieillir. Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Alléluia. C'est ça, se confier en Dieu. Je reste attaché à lui. Peu importe le problème. Je dis, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Moi, je me repose sur toi. Moi, je reste attaché à toi. C'est toi qui vas t'occuper de mes tempêtes. C'est toi qui vas t'occuper de toutes ces oppositions. Deuxième raison pour laquelle nous devons rester attachés à Dieu, demeurer en Christ, c'est que c'est la clé de l'exaucement de la prière. Si vous demeurez à moi, verset 7 de Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez le résultat, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera la clé de l'exaucement de la prière est là. Seigneur, je prie nuit et jour, mais je ne vois pas de solution. Alors examine-toi. Ton cœur est-il attaché à Dieu? Ton cœur demeure-t-il en Dieu? Ou alors c'est un cœur balancé constamment par des pensées impures? Ou alors c'est un cœur qui se plaît dans des conduites indignes et horribles aux yeux de Dieu? Voilà la clé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera. Eh bien, celui qui nous a laissé cette promesse s'appelle fidèle et véritable. Donc cette promesse est véritable. Donc celui qui l'a fait, s'appelant fidèle, il se tient derrière elle pour l'accomplir. Alors mon frère et ma sœur, regarde-toi, tu as demandé au Seigneur ceci, tu lui as demandé cela, et puis depuis, ces prières sont restées non exaucées. La condition est là, demeurer en Christ, rester attaché à lui par une vie de sainteté, par une vie de consécration, d'engagement vis-à-vis de lui, par une vie marquée par la crainte de Dieu, une vie marquée par l'amour, comme nous le verrons. Troisièmement, une autre raison pour laquelle nous devons absolument nous attacher à Dieu, eh bien, glorifier notre Père. Lui-même le dit au verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, en quoi? Que vous portiez beaucoup de fruits. » Voilà. En portant beaucoup de fruits, eh bien, notre Père va être glorifié. Notre Père sera content de notre vie. Il sera dans la joie à cause de notre vie attachée à Christ, demeurant en Christ, vivant dans l'obéissance à sa parole. Et quand Dieu est dans la joie, alors il peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Voilà. C'est ainsi que David s'est écrié. La joie du Seigneur est ma force. Quand le Seigneur est dans la joie, quand il est content de moi, quand il voit que ma vie est une vie d'obéissance, quand il voit que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toute ma force, quand il voit que j'aime mon prochain comme moi-même, comme il me le demande, quand il voit que j'obéis, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, il est dans la joie. Et sa joie devient ma force. Oh, alléluia, et gloire à Dieu. Glorifiez notre Père. Voilà ce que Dieu cherche. Voyez-vous?
Il est glorifié à chaque fois que nous portons du fruit, que ce soit l'amour. Lorsque nous aimons véritablement l'autre, nous le verrons. L'amour, le vrai,
eh bien notre Père est glorifié.
Parce qu'il est amour. Et quand nous posons des actes motivés par l'amour, eh bien nous le rejoignons dans ce qu'il est.
Et résultat, il ne peut être content.
Il ne peut être que dans la joie.
Vous voyez,
la paix. Lorsque nous avons sa paix en nous, nous sommes calmes, nous ne sommes pas agités, eh bien, il est content de nous. Parce qu'il veut aussi que notre sang, que nous prospérions sur le plan de la santé physique. Il sait, il connaît mieux que quiconque, combien toutes ces perturbations de l'âme entraînent, mes amis, des perturbations sur le plan de la santé.
Il est sait. À chaque fois que nous portons du fruit, mes amis, nous glorifions notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, une autre raison. Nous l'avons lu. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et puis ensuite, et vous serez mes disciples.
Devenir disciples, mes amis. Comment devenir disciples si nous ne restons pas attachés à Christ? Comment devenir disciple si nous ne demeurons pas en lui? Et le drame aujourd'hui de l'Église, la tragédie de l'Église aujourd'hui, c'est que nos assemblées sont de plus en plus remplies de simples croyants, de simples fidèles, plutôt que des disciples. Car le disciple sait pourquoi il a cru, le disciple marche dans la volonté de son maître, le disciple mange la parole de son maître, le disciple se laisse porter par la parole de son maître. Devenez des disciples.
Mais vous ne pouvez pas le devenir comme ça, en menant une vie de clochard spirituel. Vous allez à gauche, à droite. Ce ne sont pas des prophéties ou des visions glanées ça et là qui feraient de vous des disciples.
Vous risquez même, à force de courir après tel ou tel autre prophète, devenir le disciple de ce prophète-là et non pas le disciple du Christ. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus.
Que Dieu m'en garde d'avoir des disciples. Ah non, j'aurai de compte à rendre au Seigneur.
Soyez le disciple de celui qui a donné sa vie pour vous. Maintenant, un homme peut avoir un charisme reçu de la part du Seigneur et nous bénir en nous donnant une prophétie, nous bénir en nous donnant une vision, mais cela ne devrait pas nous amener entrer dans une relation de dépendance de cet homme ou de cette femme, au point où, pour prendre une décision, il faut absolument que la prophétesse s'exprime. Attention, ce n'est pas biblique. Dieu veut que chacun de nous devienne disciple. Et ceci, c'est dans la mesure où nous marchons avec lui, dans la mesure où nous restons attachés à lui, dans la mesure où nous mangeons, où nous demeurons dans sa parole. Si vous demeurez dans sa parole, dans mes paroles, je demeurerai en vous. Voyez-vous, Christ doit grandir en nous, mes amis. Nous voyons donc, pour revenir à l'image du sarment, puisque nous devons terminer, nous donnerons la parole à la commission chargée de la construction. Le sarment, demeurer attaché au cep pour le sarment, est une nécessité vitale. Il en est de même pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes en Christ. La seule façon pour nous, mes amis, de porter du fruit, encore plus de fruit et beaucoup de fruit, et de devenir semblable à Jésus-Christ, la seule manière consiste donc à vivre en communion. En communion profonde avec le Seigneur, et ce, instant après instant, à chaque moment de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Demeurez en Christ. Restez attachés à lui. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et je vous dirai que c'est la première responsabilité. C'est la première mission de tout celui qui a rencontré Jésus. Avant de se lancer dans ceci ou de cela, avant d'être appelé à faire ceci ou à faire cela, sa première mission, c'est de rester attaché, c'est de veiller sur sa relation avec le Seigneur. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. Eh oui. L'état de notre cœur déterminera l'état de notre relation avec le Christ. Alors, pour terminer, une question. Comment demeurer en Christ et rester attaché à lui? Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, demeurer en Christ et rester attaché à lui, comment? Eh bien, nous devons croire tout ce que la Bible dit à propos du Seigneur Jésus, alléluia. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire qu'il est le Sauveur de l'humanité. Croire que c'est lui le chemin qui mène au ciel. Ça veut dire en dehors de lui, il n'y a que des petits sentiers qui conduisent tout droit, sans escale, vers l'enfer. C'est lui le chemin. Croire que c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Croire que sa mort est une mort expiatoire, est une mort pour le salut de nos âmes. Croire tout ce que la Bible dit, alors vous demeurerez en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur et vivre sa seigneurie au quotidien. Voilà. L'avoir rencontré. Excusez-moi. L'avoir accepté comme sauveur, comme Seigneur et vivre sa seigneurie au quotidien. C'est-à-dire laisser Jésus vivre en nous et à travers nous. Voilà la deuxième chose qui peuvent et qui nous maintient en Christ, qui nous amène à rester attachés à lui. Troisièmement, faire ce que Dieu ordonne. Et là, nous voyons une vie d'obéissance à sa parole. Voyez-vous, la parole de Dieu est prêchée non pas pour que nous nous retrouvions avec des cerveaux à plusieurs étages. Voyez-vous, pas du tout. La parole de Dieu est prêchée pour que nous la recevions et que nous la mettions en pratique. Alléluia. Faire ce que Dieu ordonne. 1 Jean 3, verset 24 nous le dit. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Oh, alléluia. Le jour où le Seigneur est venu dans notre vie, eh bien, le Saint-Esprit est aussi venu en nous. Et le Saint-Esprit, eh bien, est appelé à nous conduire. Mais pour autant que nous restions attachés à Christ, alléluia. Marchez selon l'Esprit, nous dit la Bible, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est les péchés, quels qu'ils soient. Il n'y a pas d'autre secret. Voyez-vous, si vous voulez marcher dans la sainteté par vos propres efforts, vous n'y arriverez jamais. Voyez-vous, mais marchez selon l'Esprit et vous accomplirez la volonté de Dieu. Alléluia. Faire ce que Dieu nous ordonne. Quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, nous devons obéir. Voyez, et puis c'est comme ça que nous allons rester attachés à lui. Quatrièmement, enfin, persévérer dans la foi. Oh, alléluia. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non pas par la vue. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non pas selon les circonstances. Et la foi, mes amis, j'en ai parlé en 2020, lors du confinement, quand je préparais des messages qui passaient dans les médias et qu'on postait sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux. J'avais parlé de la foi comme étant le cordon ombilical, voyez, qui nous relie à Dieu, ce cordon-là. J'avais trouvé cette image très pertinente pour exprimer, mes amis, notre dépendance totale et entière de Dieu. Qu'est-ce que c'est le cordon ombilical? Les mamans, vous le savez. Et nous le savons tous. Lorsque le bébé est dans le sein de sa mère, eh bien, il est relié à celle-ci par ce cordon-là, qu'on appelle cordon ombilical. Eh bien, par ce cordon, l'enfant reçoit tous les nutriments vitaux et l'oxygène dont il a besoin pour sa survie alors qu'il est dans le sein de sa mère. Sans ce cordon, eh bien, l'enfant mourrait. Vous voyez, Dieu a fait tout, hein, de manière parfaite, de manière extraordinaire. Par ce cordon, il y a tous ces vaisseaux sanguins, mes amis, qui alimentent les bébés. Quand la maman mange, tout ça est transformé, et puis le bébé, dans son sein, reçoit toutes ses vitamines. Quand maman respire, eh bien, cet oxygène va aussi jusqu'à l'enfant par ce cordon ombilical. Alléluia. Et ça, c'est une très belle image. La foi nous maintient, mes amis. Cette foi qui naît, que le Seigneur suscite en nous, comme Hébreux 12 nous le dit, il est l'auteur de la foi. Cette foi qui l'amène aussi à la perfection. Littéralement, il est celui qui suscite la foi, l'initiateur de la foi et l'accomplisseur de la foi. Oh, alléluia. C'est donc cette foi. Et cette foi se nourrit de la parole de Dieu, de l'obéissance à cette parole. Et enfin, entretenir une relation d'amour à la fois envers le Seigneur et envers les autres, envers notre prochain. Et en demeurant dans l'amour envers le Seigneur, dans l'amour envers les autres, eh bien, nous allons demeurer en Christ. Alléluia. Que son nom soit béni. Acclamons sa parole. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Entre-temps, Papa Batou, qui est donc le responsable qui préside à la commission chargée de la construction, se prépare pour monter et pour nous faire nous parler un tout petit peu à propos de tout ça. Mais avant ça, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Aide-nous à rester attachés à toi, à demeurer en toi, car c'est la seule manière d'expérimenter, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. C'est la seule manière, ô Dieu, de mener une vie qui te glorifie, une vie, Seigneur, épanouie pour chacun de nous. Alors, garde-nous de tout ce qui pourrait détruire notre relation, tout ce renard des ténèbres, Seigneur, tous ces péchés, ô Dieu, qui sont là pour détruire cette relation que nous avons avec toi. Au contraire, que nous menions une vie d'obéissance, une vie qui nous amène, Seigneur, à affermir, à consolider, à approfondir notre relation avec toi. Merci pour tout. Merci de bénir également ce moment, Seigneur, ô Dieu, des offrandes, mais aussi le moment où nous allons prélever, Seigneur, l'argent pour la construction du temple. Bénis ces paniers et tous ceux qui donnent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.